Tout à coup, il se tourna devant sa porte. Mademoiselle Vatnaz, sans qu'il s'en aperçût, lui avait fait descendre le faubourg Poissonnière. « Nous y voilà, » dit-elle. « Moi, je ne peux pas monter, mais vous, rien ne vous empêche. »«
Pourquoi faire ?»«
Pour lui dire tout, parbleu !»
Frédéric, comme en se réveillant en sursaut, comprit l'infamie où on le poussait.
« Eh bien, » reprit-elle, il leva les yeux vers le second étage. La lampe de Madame Arnoux brûlait. Rien, effectivement, ne l'empêchait de monter. « Je vous attends ici. Allez donc. »
Ce commandement acheva de le refroidir et il dit
« Je serai là-haut longtemps. Vous feriez mieux de vous en retourner. J'irai demain chez vous. »«
Non, non, »
répliqua la Vatnaz en tapant du pied.
« Prenez-le, emmenez-le. Faites qu'il les surprenne. »
Mais Delmar n'y sera plus. Elle baissa la tête.
« Oui, c'est peut-être vrai. »
Et elle resta sans parler, au milieu de la rue, entre les voitures, puis, fixant sur lui ses yeux de chatte sauvage,
« Je peux compter sur vous, n'est-ce pas ?
Entre nous deux maintenant, c'est sacré. Faites donc. À demain. »
Frédéric, en traversant le corridor, entendit deux voix qui se répondaient. Celle de Madame Arnoux disait
« Ne mens pas, ne mens donc pas !»
Il entra, on se tut.
Arnoux marchait de long en large, et Madame était assise sur la petite chaise près du feu, extrêmement pâle, l'œil fixe. Frédéric fit un mouvement pour se retirer. Arnoux lui saisit la main, heureux du secours qui lui arrivait.
« Mais je crains, » dit Frédéric.
« Restez donc, » souffla Arnoux dans son oreille. Madame reprit. « Il faut être indulgent, monsieur Moreau. Ce sont de ces choses que l'on rencontre parfois dans les ménages. »«
C'est qu'on les y met, » dit gaillardement Arnoux. « Les femmes vous ont des lubies.
Ainsi, celle-là, par exemple, n'est pas mauvaise, non, au contraire. »
Eh bien, elles s'amusent depuis une heure à me taquiner avec un tas d'histoires.
« Elles sont vraies, » répliqua Madame Arnoux, impatientée.
« Car enfin, tu l'as acheté. »«
Moi ?»«
Oui, toi-même, au persan. » »«
Le cachemire, » pensa Frédéric. Il se sentait coupable et avait peur. Elle ajouta, de suite.
« C'était l'autre mois, un samedi, le 14. »«
Ah, ce jour-là, précisément, j'étais à Creil, ainsi, tu vois. »«
Pas du tout, car nous avons dîné chez les Bertins le 14. »
« Le 14, » fit Arnoux, en levant les yeux comme pour chercher une date.
« Et même, le commis qui t'a vendu était un blond. »«
Est-ce que je peux me rappeler le commis ?»«
Il a cependant écrit, sous ta dictée, l'adresse, 18 rue de Laval. »«
Comment sais-tu ? » dit Arnoux, stupéfait.
Elle leva les épaules.
« Oh, c'est bien simple. J'étais pour faire réparer mon cachemire, et un chef de rayon m'a appris qu'on venait d'en expédier un autre pareil chez Madame Arnoux. »«
Est-ce ma faute à moi s'il y a dans la même rue une dame Arnoux ?»
« Oui, mais pas Jacques Arnoux, » reprit-elle. Alors il se mit à divaguer, protestant de son innocence. C'était une méprise, un hasard, une de ces choses inexplicables comme il en arrive. On ne devait pas condamner les gens sur de simples soupçons, des indices vagues. Et il cita l'exemple de l'infortuné Le Surque.
« Enfin, j'affirme que tu te trompes. Veux-tu que je t'en jure ma parole ?
Ce n'est point la peine.
Pourquoi ? »
Elle le regarda en face, sans rien dire, puis allongea la main, prit le coffret d'argent sur la cheminée et lui tendit une facture grande ouverte.
Arnoux rougit jusqu'aux oreilles et ses traits décomposés s'enflèrent.
« Eh bien ?»«
Mais, » répondit-il lentement, « qu'est-ce que ça prouve ?»«
Ah !»
fit-elle, avec une intonation de voix singulière où il y avait de la douleur et de l'ironie.
« Ah !»
Arnoux gardait la note entre ses mains et la retournait, n'en détachant pas les yeux comme s'il avait dû y découvrir la solution d'un grand problème.
« Ah oui, oui, je me rappelle, »
dit-il enfin.
« C'est une commission.
Vous devez savoir cela, vous, Frédéric. »
Frédéric se taisait.
« Une commission dont j'étais chargé par...
le père Oudry. »
« Et pour qui ?»«
Pour sa maîtresse. »«
Pour la vôtre, »
s'écria Madame Arnoux, se levant toute droite.
« Je te jure. Ne recommencez pas, je sais tout. »
« Ah, très bien. Ainsi, on m'espionne. » Elle répliqua froidement.
« Cela blesse peut-être votre délicatesse ?»«
Du moment qu'on s'emporte, » reprit Arnoux en cherchant son chapeau, « et qu'il n'y a pas moyen de raisonner. »
Puis, avec un grand soupir, « Ne vous mariez pas, mon pauvre ami, non, croyez-moi. » Et il décampa, ayant besoin de prendre l'air. Alors, il se fit un grand silence, et tout dans l'appartement sembla plus immobile. Un cercle lumineux, au-dessus de la carcelle,
blanchissait le plafond, tandis que dans les coins, l'ombre s'étendait comme des gaz noirs superposés. On entendait le tic-tac de la pendule avec la crépitation du feu. Madame Arnoux venait de se rasseoir à l'autre angle de la cheminée, dans le fauteuil. Elle mordait ses lèvres en grelottant. Ses deux mains se levèrent, un sanglot lui échappa, elle pleurait. Il se mit sur la petite chaise et d'une voix caressante, comme on fait à une personne malade. « Vous ne doutez pas que je ne partage ?» Elle ne répondit rien, mais continuant tout haut ses réflexions. « Je le laisse bien libre. Il n'avait pas besoin de mentir. »«
Certainement, » dit Frédéric.
C'était la conséquence de ses habitudes, sans doute, il n'y avait pas songé. Et peut-être que dans des choses plus graves.
« Que voyez-vous donc de plus grave ?»«
Oh, rien. » Frédéric s'inclina, avec un sourire d'obéissance. Arnoux néanmoins possédait certaines qualités, il aimait ses enfants.
« Ah, et il fait tout pour les ruiner !»
Cela venait de son humeur trop facile, car enfin c'était un bon garçon. Elle s'écria.
« Mais qu'est-ce que cela veut dire, un bon garçon ?»
Il le défendait ainsi, de la manière la plus vague qu'il pouvait trouver, et tout en la plaignant, il se réjouissait. Par vengeance ou besoin d'affection, elle se réfugierait vers lui. Son espoir, démesurément accru, renforçait son amour. Jamais elle ne lui avait paru si captivante, si profondément belle. De temps à autre, une aspiration soulevait sa poitrine. Ses deux yeux fixes semblaient dilatés par une vision intérieure, et sa bouche demeurait entreclose comme pour donner son âme. Quelquefois, elle appuyait dessus fortement son mouchoir. Il aurait voulu être ce petit morceau de batiste tout trempé de larmes. Malgré lui, il regardait la couche au fond de l'alcôve en imaginant sa tête sur l'oreiller. Et il voyait cela si bien qu'il se retenait pour ne pas la saisir dans ses bras. Elle ferma les paupières, apaisée, inerte. Alors, il s'approcha de plus près et, penché sur elle, il examinait avidement sa figure. Un bruit de bottes résonna dans le couloir. C'était l'autre. Ils l'entendirent fermer la porte de sa chambre. Frédéric demanda d'un signe à Madame Arnoux s'il devait y aller. Elle répliqua oui, de la même façon, et ce muet échange de leurs pensées était comme un consentement, un début d'adultère. Arnoux, près de se coucher, défaisait sa redingote. « Eh bien, comment va-t-elle ? »
« Oh, mieux, »
dit Frédéric, « cela se passera. » Mais Arnoux était peiné.
« Vous ne la connaissez pas. Elle a maintenant des nerfs. Imbécile de commis. Voilà ce que c'est que d'être trop bon. Si je n'avais pas donné ce maudit chat à la Rosanette.
Ne regrettez rien. Elle vous en est, on ne peut plus reconnaissante. Vous croyez ?» Frédéric n'en doutait pas. La preuve,